Dans un article du journal Le Monde, daté de mars 2015, on trouvait les résultats d'un sondage concernant le choix d'une religion. Alors, ce sondage datait de 2012 et je crois que c'était peu de temps après les attentats de janvier. Le Monde avait publié ou republié peut-être ce sondage qui montrait un peu où en était la population française concernant la religion. Et ce sondage disait qu'en France, une personne sur trois se dit sans religion. Si on regardait ce qui se passait en France il y a 50 ans, ou peut-être 80% des gens se disaient catholiques, probablement, là, une personne sur trois se dit sans religion. Et encore une personne sur trois se dit athée, c'est-à-dire ne croit pas en l'existence de Dieu. Donc une personne sur trois se dit sans religion et une personne sur trois se dit athée. Ce qui veut dire que, d'après ce sondage, sur un échantillon de la population donnée, deux personnes sur trois ne connaissent pas le Dieu vivant et vrai, au moins. Et il y aurait à peu près 5% de personnes pratiquantes en France. La religion n'est plus quelque chose qui nous précède. Par exemple, lorsque nous naissons dans une famille, nous naissons de moins en moins dans des familles croyantes et pratiquantes. La religion est de plus en plus quelque chose que l'on choisit, et éventuellement que l'on ne choisit pas. Dans le choix des religions, un vaste supermarché s'ouvre devant nous, n'est-ce pas? Chacun cherchant le produit religieux ou spirituel qui lui convient, sans que cela lui coûte trop. Trop de temps, trop d'énergie, trop d'argent. Un peu comme dans les grandes surfaces. La Bible nous dit qu'il y a un Dieu qui existe. Ne se pose pas la question de savoir si Dieu existe. Premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est là, de toute éternité, et à un moment il a créé notre monde, il nous a créés. Question, est-ce que ce Dieu dont la Bible dit qu'il existe, nous demande de choisir une religion? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre ce matin. Est-ce que le Dieu de la Bible nous demande de choisir une religion? Je reprends dans cette prédication ce matin la série que j'ai commencée déjà il y a plusieurs mois sur l'épître de Paul aux Galates. Et j'aimerais lire avec vous quelques versets au début du chapitre 5 de l'épître aux Galates. Donc, si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir dans le Nouveau Testament, lettre aux Galates, chapitre 5. Nous étions arrivés la fois précédente au premier verset du chapitre 5, je vais le relire et je vais lire jusqu'au verset 6. Donc Galates chapitre 5, versets 1 à 6. Écoutons la parole de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug d'un esclavage. Voici, moi, Paul, je vous affirme que si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera d'aucun secours. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés du Christ, vous qui cherchez votre propre justice dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Je découperai cette prédication en trois temps. Dans un premier temps, nous allons regarder qu'est-ce que Paul dit dans ce texte concernant la fausse religion. Ce sera les versets 2 à 4. Et dans un deuxième temps, nous verrons ce que Paul dit par rapport à la vraie religion, versets 5 à 6. Et dans un troisième et dernier temps, j'essaierai de tirer quelques conséquences pratiques de ce que dit Paul dans ce passage. Mais avant de commencer, j'aimerais réintroduire ce premier verset que j'avais déjà commenté la fois précédente, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais je le relis et je rappelle quelques éléments. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug d'un esclavage. Ce verset, c'est le verset clé de toute la lettre ici. C'est à la fois la conclusion de ce que Paul a dit dans les chapitres 1 à 4, et c'est aussi le verset qui ouvre les chapitres 5 et 6 qui vont être plus pratiques et qui vont parler notamment du fruit de l'esprit dont vous allez parler à l'atelier de la foi samedi prochain. Si vous avez un seul verset à retenir dans toute cette lettre, c'est celui-là. Galates chapitre 5 verset 1. Pourquoi ? Parce que c'est là que Paul affirme le plus clairement ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la liberté. La liberté que l'on trouve en Jésus-Christ. La liberté que Jésus nous donne. Être chrétien, c'est être libéré d'une fausse religion. Alors, quelle est cette fausse religion dont Paul nous parle ici ? C'est ce qu'il dit dans les versets 2 à 4. Je relis le verset 2 d'abord. « Voici moi, Paul, je vous affirme que si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous est plus d'aucun secours. » Alors on pourrait se demander pourquoi la circoncision ? Dans la culture juive, c'était peut-être une évidence, mais combien y a-t-il de juifs parmi nous ici ce matin ? Pourquoi Paul s'attache-t-il à cette question de la circoncision ? On sait que c'est quelque chose qui est pratiqué dans différentes religions, la religion musulmane, la religion juive et puis d'autres encore. Pourquoi Paul parle-t-il ici de la circoncision ? Eh bien, Paul y fait référence, par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 15 et au verset 1. Je lis ce verset. Quelques hommes venus de la Judée, notamment de Jérusalem, enseignaient les frères et disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Si vous ne vous faites pas circoncire, comme le dit la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. La circoncision, c'est quelque chose qui, nous, en 2015, peut nous paraître un détail de la religion qui ne mérite peut-être pas qu'on s'y attarde. La circoncision consiste à couper un petit bout de chair sur le sexe masculin à la naissance. Et alors, qu'on soit circoncis ou pas circoncis, qu'est-ce que ça change ? Et pourtant, Paul y consacre toute une lettre, 6 chapitres. Et il adresse à l'église de Galatie le message suivant. Si vous vous faites circoncire, votre foi est en danger. Vous perdez la foi. La circoncision, c'est en fait plus qu'une petite opération chirurgicale. C'est le signe visible qu'un croyant peut faire valoir pour prouver son appartenance à Dieu. Tu te dis chrétien ? Eh bien, prouve-le en te faisant circoncire, car un vrai chrétien doit être circoncis. Voilà le discours de ces enseignants que Paul va dénoncer comme de faux enseignants et qui circulent dans les églises de la Galatie. Ce discours qui consiste à mettre Jésus et Moïse sur le même plan. Pour ces gens, être chrétien, c'est non seulement être uni à Jésus-Christ, mais aussi être uni à Moïse et la loi. Le Christ seul ne suffit pas. Quel est le problème ici pour Paul ? Le problème, c'est que si ces chrétiens cèdent à ce discours et se font circoncire, eh bien, ils reviennent à une alliance dont le principe est le suivant. Pour être juste devant Dieu, il faut obéir à la loi tout entière. Et c'est pour cela que Paul dit au verset 3, « Je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Vous voyez, c'est pas un détail de la vie de foi. C'est un choix qui a des conséquences énormes. Et pourquoi Paul dit-il « j'affirme de nouveau » ? Eh bien là, il fait référence à ce que nous avions déjà vu au chapitre 3 et au verset 12, où Paul disait « Or la loi ne vient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra la loi en pratique vivra par elle. » Ça, c'est le principe de la justice par la loi. C'est le principe que j'avais illustré de cette manière. Si nous voulons être justes devant Dieu, il faut que nous ayons 20 sur 20, comme si on passait un examen, comme si on passait le bac spirituel. Eh bien, pour être reçu au bac spirituel, il faut 20 sur 20. Devant un Dieu qui est parfaitement juste et parfaitement bon, les êtres humains, nous qui sommes ses créatures, nous sommes appelés à être parfaitement justes et parfaitement bons. Le problème, c'est qu'au lieu de faire ce qui est parfaitement bien devant Dieu, nous faisons ce qui est mal. Alors, pas toujours, mais même 19,5 sur 20 ne nous permet pas d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas suffisant pour nous rendre justes devant Dieu. Il faut 20 sur 20. Ça, c'est le constat que l'apôtre Paul a fait. Et quand on entend ça, on se dit, mais c'est pas possible. Personne ne peut avoir 20 sur 20. Eh bien, c'est exactement ce que Paul est en train de dire. C'est impossible. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, pécheurs devant Dieu. Et le fait que nous soyons pécheurs entraîne pour nous, sur nous, une malédiction. Et de nouveau, je reviens à ce que Paul dit au chapitre 3 et au verset 10. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi, c'est-à-dire qui cherchent à se rendre juste devant Dieu en obéissant à des règles, tous ceux-là sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas » tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Se faire circoncire pour un chrétien dans l'église de Galatie, ça revient à dire « Jésus n'est pas suffisant pour me sauver, il faut que je fasse quelque chose, moi. » Et Paul dit « D'accord, mais alors il faut que tu obéisses parfaitement à toute la loi pour être juste devant Dieu. » « Ah, mais c'est pas possible !» Eh oui, c'est pas possible. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. C'est-à-dire de quelqu'un qui allait faire, lui, un parcours sans faute. Et qui devait prendre sur lui la malédiction qui reposait sur nous. Et c'est ce que Paul dit encore au chapitre 3 et au verset 13. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu pour nous malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Vous voyez, devenir chrétien, se convertir, ce n'est pas d'abord se convertir à une religion, c'est comprendre et accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. c'est-à-dire sa mort pour nos péchés. C'est renoncer à notre propre justice, c'est-à-dire à essayer par nous-mêmes, par nos propres efforts, de prouver à Dieu que nous sommes bons, que nous ne sommes pas si mauvais que cela. Dit autrement, devenir chrétien, c'est laisser Jésus-Christ nous libérer de l'esclavage de nos propres mérites. C'est tout le message de Paul dans cette épître aux Galates, qui arrive à ce chapitre 5 et au verset 1, et qui nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug d'un esclavage. » C'est-à-dire de l'esclavage de la loi, en tant que principe de vie par nos mérites. Et ce message, cet évangile, les Galates l'ont entendu, ils l'ont compris et ils y ont cru lorsque Paul le leur a annoncé. Mais certains enseignants veulent les ramener à leur propre mérite. Et cela a trois conséquences que nous voyons dans les versets 2 à 4 du chapitre 5. Passons-les en revue rapidement. Première conséquence. Si vous voulez être sauvé par Jésus et par votre circoncision, par vos propres œuvres, alors Paul dit, le Christ ne vous est plus d'aucun secours. Si vous ajoutez quelque chose à la seule foi en Jésus-Christ pour être de vrais chrétiens, vous n'êtes plus chrétien. Si vous ajoutez quelque chose, vous perdez l'aide, le secours, le salut en Jésus-Christ. Son sacrifice n'a plus aucune valeur, puisque c'est vous qui voulez prouver à Dieu votre propre justice. On retrouve là encore une idée que Paul a déjà évoquée au chapitre 2 et au verset 21. Si la justice s'obtient grâce à notre obéissance à la loi, alors le Christ est mort pour rien. Première conséquence donc, Christ ne nous est plus d'aucun secours. Deuxième conséquence, si vous voulez être sauvé par Jésus plus votre circoncision, eh bien vous êtes séparé, coupé du Christ. Et là, Paul joue peut-être un petit peu sur les mots. Dans la circoncision, on coupe quelque chose. Eh bien, en faisant ce geste, on se coupe soi-même du Christ. On se sépare du Christ. Par la circoncision, les chrétiens montrent qu'ils n'ont plus besoin d'un sauveur, parce qu'ils cherchent à se sauver eux-mêmes. Donc non seulement Jésus-Christ n'est plus d'aucun secours, mais en plus on perd le Christ lui-même. Conséquence, on se dit chrétien, mais on vit sans le Christ, si on pense qu'on peut compléter son salut par nos propres efforts. Troisième conséquence, c'est ce que Paul dit au verset 4. Si vous voulez être sauvé par Jésus, plus votre circoncision, vous êtes déchu de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce ? Eh bien précisément, c'est ce que l'on ne mérite pas. C'est ce que Dieu nous offre. C'est ce que Dieu nous donne. C'est un cadeau. C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Un salaire, une récompense, c'est mérité parce qu'on a fourni un certain travail. On a fait des efforts pour l'obtenir. Mais la grâce de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est un cadeau. Et ce cadeau, nous ne pouvons pas l'acheter par notre pratique religieuse. Donc, dire... D'une part, je crois en l'œuvre de Jésus pour moi, et dire d'autre part, j'essaye quand même de mériter ce cadeau, c'est perdre le cadeau. Et là encore, Paul avait déjà évoqué cette idée au chapitre 2 et au verset 18. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, c'est-à-dire si je reviens à l'ancien système des mérites, pour que Dieu m'aime, que Dieu me sauve. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. Je reviens dans la situation de quelqu'un qui essaye par ses efforts d'obéir à la loi, mais qui ne peut que la transgresser à un moment ou un autre parce qu'il est pécheur. Voilà la fausse religion que l'apôtre Paul dénonce. Et puis, à partir du verset 5, il change de discours, il change même de pronom personnel, il passe de « vous » à « nous » pour parler de la vraie religion. Je relis les versets 5 et 6. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Maintenant, l'apôtre Paul s'inclut dans le discours. Il dit « nous ». Il s'inclut ici dans les vrais croyants, c'est-à-dire ceux qui acceptent l'évangile de la grâce. Ce que Paul dit ici pose une question délicate. Qu'est-ce qui distingue les vrais croyants des faux croyants? Ça, c'est une question qui est lourde de conséquences, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse de Paul, c'est une question de foi. C'est-à-dire, quelle foi est mise en œuvre ici? Et il donne ici deux arguments, deux affirmations pour parler de cette foi. Il dit au verset 5, « Car nous, c'est grâce à l'Esprit que nous attendons par la foi l'espérance de la justice. » Notez ici le mot « attendre » que Patrick a déjà souligné tout à l'heure dans la première partie de notre culte. Nous attendons. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que nous sommes passifs dans notre canapé à attendre que Jésus revienne? Non. Cela veut dire que nous ne travaillons pas pour que Dieu nous sauve. Nous attendons notre justice qui vient avec le Christ, parce que notre justice est en lui. La justice parfaite, c'est la sienne, pas la nôtre. Donc nous ne cherchons plus à essayer d'être parfaitement juste devant Dieu, c'est impossible. Nous comptons sur la justice parfaite du Christ qui vient. Nous l'attendons. Et cette attente, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui l'a produit en nous, le fruit de l'Esprit. De même que l'espérance. Oui, il y a plein de mots dans un même verset ici, au verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, cette phrase. En fait, c'est tout simple. Nous attendons avec foi et avec espérance que Jésus vienne et nous donne cette justice parfaite que nous attendons. C'est donc un acte de foi. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire, nous. C'est quelque chose que nous attendons, quelque chose que nous espérons. Tout seul, nous serions déjà découragés. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en nous, lorsque nous sommes chrétiens, nous permet d'attendre, nous aide à attendre, nous encourage, nous aide à espérer cette justice parfaite qui vient. Non seulement la justice du Christ et son triomphe à la croix nous libère de cet esclavage où nous cherchons à nous rendre nous-mêmes justes devant Dieu, mais en plus, l'Esprit de Dieu en nous nous aide à attendre cette vie parfaitement juste que nous espérons, qui nous est promise. Alors, attention. La foi, ça ne veut pas dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut sans contrainte. Et quand nous disons que la vie chrétienne, c'est la liberté, il reste à préciser de quelle liberté nous parlons, n'est-ce pas ? Parce que le mot liberté dans notre monde aujourd'hui, ça veut dire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas une liberté sans contrainte. Ça, c'est une fausse liberté. La vraie liberté a toujours des contraintes, mais plus d'esclavage. Vous entendez ça ? La vraie liberté a toujours des contraintes, des limites, mais plus d'esclavage. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une foi théorique qui plane au-dessus des réalités quotidiennes. C'est vivre avec l'Esprit de Dieu qui nous transforme, qui nous aide à progresser dans notre manière de vivre. Et le modèle nouveau que nous avons, c'est Jésus lui-même. Et ça, c'est ce que Paul va développer dans la suite du chapitre 5. Dieu qui transforme nos vies par son esprit. Ce n'est donc pas nous qui pouvons transformer notre vie par notre propre religion. Ça, c'est la première affirmation. Deuxième affirmation en ce qui concerne la foi, c'est le verset 6. En Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Paul réaffirme ici que seule la foi compte dans notre justification devant Dieu. Qu'on soit circoncis ou pas circoncis, c'est pas ça la question. La question, c'est la foi. Et Paul précise ici, quelle foi ? Qu'est-ce que c'est la foi ? La vraie foi, la vraie religion. C'est une foi qui agit au travers de l'amour. En Jésus-Christ, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui importe, mais la foi qui agit par l'amour. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conséquence ? Paul a parlé de la fausse religion, de la vraie religion. J'aimerais tirer deux conséquences principales de ce texte que nous avons parcouru ensemble ce matin. La première, c'est que nous ne travaillons pas pour être sauvés, mais nous recevons par la foi, c'est-à-dire que nous disons oui à Dieu, parce que c'est lui qui produit en nous cette foi. C'est lui qui met au travail notre foi pour que nous aimions les autres. Donc nous ne travaillons pas pour être sauvés, mais parce que Dieu nous sauve, alors nous pouvons mettre au travail notre foi pour aimer les autres. Voyez ? Ça change complètement la perspective. Et là, nous rejoignons le thème de notre année, Jean 13, verset 35. « À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » L'amour comme signe d'une foi authentique. La deuxième conclusion que je tire de ce texte, c'est qu'ici, nous sommes invités à choisir entre deux religions. Je parlais en introduction de nos contemporains qui, voilà, peut-être pour certains en tout cas, choisissent une religion ou choisissent aucune religion, ne choisissent aucune religion. Quel choix avons-nous ? Est-ce que le Dieu de la Bible nous demande de choisir une religion ? Oui et non, ça dépend comment on comprend la question. J'aimerais répondre oui en précisant de quelle manière répondre. Nous avons le choix, en fait, entre deux religions. Nous avons le choix entre la religion de la loi, c'est-à-dire une religion qui fonctionne selon le principe du mérite. Et ici, l'exemple que prend Paul, c'est celui de la circoncision. Ça, c'est la première religion. Et la deuxième, c'est la religion de la grâce, qui n'est pas de l'ordre du mérite, qui est de l'ordre du cadeau, c'est-à-dire que l'on reçoit par la foi en Jésus-Christ. La religion de la loi, c'est une condamnation. parce qu'il est impossible pour nous de nous rendre justes devant Dieu, à cause du mal qui est en nous, et que la Bible nomme le péché. Et la religion de la grâce, c'est tout le contraire, c'est une libération, parce que Jésus-Christ, par sa justice à lui, nous rend libres, et par sa mort à la croix, couvre nos fautes. Il a porté, lui Jésus, la malédiction, la condamnation à notre place. Et là, j'aimerais dire quelque chose qui me paraît juste d'après ce que nous lisons ici et tout le parcours que nous faisons dans la lettre aux Galates. Juste et en même temps délicat à dire, surtout dans notre contexte actuel. J'aimerais dire ceci. La religion de la loi, c'est la religion de Monsieur Tout-le-Monde. C'est la religion que nous avions avant de rencontrer le Christ personnellement. C'est cette vie qui consiste à essayer de nous rendre justes nous-mêmes devant Dieu par nos efforts. Et là, j'aimerais dire quelque chose de délicat. Nous avons, ces derniers jours, un exemple extrême de cette religion de la loi. Le terrorisme. Qu'est-ce que c'est Daesh ? Daesh, c'est une religion de la loi organisée en système violent et fanatique. Vous savez, ces gens qu'on dit kamikazes, ils ne se suicident pas. Ils ne sont pas désespérés. Ils ne se suicident pas. Ils s'auto-sacrifient. C'est complètement différent. Ils refusent que quelqu'un se soit sacrifié pour les sauver et ils se sacrifient eux-mêmes pour gagner leur place au paradis. Ils ne se suicident pas. Leur suicide, leur action kamikaze, c'est une promotion pour eux. C'est fou, n'est-ce pas ? C'est malheureusement ce que tous les gens autour de nous essayent de faire d'une manière qui n'est évidemment pas violente et pas extrême comme ça. Mais au fond, la religion est la même. Alors, je dis ici les choses avec crainte et tremblement. Parce que le contexte est compliqué, mais compte tenu de ce que nous avons vu déjà tout au long de l'épître, nous n'avons le choix en fait qu'entre deux religions. Mourir pour ces hommes et ces femmes terroristes, c'est une promotion. Le problème, c'est que c'est un mensonge, une tromperie, parce qu'on n'achète pas Dieu. À l'inverse, être chrétien, c'est recevoir la grâce immérité de Dieu, qui, au lieu de nous condamner, décide de mettre en nous son esprit, si nous faisons confiance à Jésus. C'est Jésus et Jésus seul qui peut nous sauver et nous détourner de l'esclavage, c'est-à-dire de cette manière de vivre où nous cherchons à prouver à Dieu que nous sommes justes. C'est ce que nos voisins, nos amis, peut-être certains membres de notre famille, essayent de faire. Et ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous sommes libérés. Et que nous pouvons alors obéir à Dieu sans lâcheté. Il ne s'agit pas de se dire « je suis chrétien, je me tourne les pouces ». Sans lâcheté, mais aussi, et ça c'est important, sans crainte d'un châtiment. Nous ne sommes plus sous la malédiction, sous la condamnation lorsque nous appartenons au Christ. Et nous pouvons donc librement apprendre à aimer Dieu et à aimer les autres. voyez, il y a là un défi pour nous. Un défi à vivre personnellement. Un choix à faire entre la religion de la loi et la religion de la grâce. Et pour nous qui avons fait ce choix auquel Dieu nous a appelés, de choisir sa grâce, le défi pour nous, c'est d'apprendre à aimer les autres. Et de vivre par cette grâce que Dieu nous donne jour après jour. Alors, lorsque nous entendons cette parole de Dieu, nous nous sentons peut-être tout petits devant le défi et en même temps peut-être joyeux et émerveillés de cette grâce de Dieu qui nous touche encore aujourd'hui. Alors, je crois que nous avons besoin de prier pour que le Seigneur nous aide à choisir la bonne religion. Si vous avez bien suivi ce que je disais, hein, pas le mot religion au sens où tout le monde l'entend, choisir une pratique religieuse pour se faire bien voir de Dieu ou de ce qu'il y a là-haut peut-être, mais de bien choisir. Dieu nous demande de choisir entre la vie et la mort. Alors, pour terminer, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, c'est avec crainte et tremblement que nous nous présentons devant toi pour t'adresser nos prières et te demander une nouvelle fois de nous faire grâce. Crainte et tremblement parce que nous voyons que le mal est à l'œuvre et ces derniers jours, nous l'avons vu dans toute sa violence, dans toute sa fureur. Quand la mort est. Quand la vie est remplacée par la mort comme idéal, cela nous fait peur. Quand nous voyons que des hommes et des femmes sont à ce point corrompus dans leur esprit, qu'ils ne peuvent plus discerner le bien et le mal, qu'ils ont renversé le bien en mal et le mal en bien, nous sommes effrayés. Et en même temps, Seigneur, ta parole ne manque pas de nous faire comprendre qu'il y a en nous quelque chose de cette folie. Oh, nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des meurtriers, nous ne sommes pas des fanatiques. Et il y a un écart évident entre nous et eux. Mais le péché est aussi en nous. Et cette tentation de vouloir acheter ton pardon, acheter notre place au paradis, à notre manière, par notre travail, notre réussite sociale, par les comptes que nous faisons avec toi sur le bien et le mal que nous faisons. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui sont encore dans cet esclavage, je te prie que tu apportes la délivrance, la libération. Et il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui peut le faire. Et pour nous que tu as déjà appelés par ta grâce, je te prie que tu nous aides à ne pas retourner dans cet esclavage. C'est pour la liberté que tu nous as libérés. Aide-nous à rester fermes et à ne pas nous remettre sous un esclavage. Dans cette mentalité, dans cet état d'esprit qui nous fait croire que si nous ajoutons quelque chose à la foi en Jésus, si nous ajoutons quelque chose à l'œuvre du Christ mort pour nos péchés, alors nous serons vraiment sûrs que tu nous aimes, vraiment sûrs que nous avons notre place au ciel avec toi. Et Seigneur, tu nous dis que si nous pensons de cette manière, nous te perdons. Nous perdons le Christ, nous perdons ta grâce, nous perdons le salut. Délivre-nous, Seigneur, de cette manière de penser. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous à aimer ce monde, les gens autour de nous, pour leur annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, aide-nous à le proclamer encore. Amen.